Ça ressemble à un instrument de mesure.
Ah, attendez, je vais mettre ma radio un peu plus fort parce que je n'entends pas bien. Attendez.
Attention à l'arsène.
Fort mais loin. Hein.
Voilà, le temps de traverser la cuisine.
Ça y est, j'y suis là.
Allez-y.
Alors voilà, ça ressemble plutôt à un instrument de mesure. Oui. Y a deux sortes d'éléments qu'on trouve sur le panneau de commande. D'une part, des potentiomètres. D'autre part, des connexions qui peuvent être soit, comment dire, des fiches. C'est-à-dire qu'il faut commuter tous les modules entre eux. C'est-à-dire qu'il y a des modules qui produisent du son, il y a des modules qui transforment le son.
Mais qu'est-ce que c'est qu'un module, oui?
Ah ben, un module, ça peut être un oscillateur qui produit du son.
Et qu'est-ce que c'est qu'un oscillateur, enfin?
Ah.
Très très bonne question.
Ben oui, parce qu'il vous dit, faut quand même se mettre à la portée, vous comprenez?
Voilà, que sont un standard.
Voilà, le son, ce sont des oscillations, des vibrations, des oscillations.
Des vibrations d'une membrane, du son, hein? Au départ.
Alors, ils savent tous ce que c'est un synthétiseur, mais pour l'expliquer, c'est pas si simple, monsieur, vous voyez.
Bon, une membrane vibre, ce qui produit une membrane vibre et ça produit un son perceptible à l'oreille. Pour faire vibrer cette membrane, on envoie un certain nombre d'impacts électriques qui sont périodiques, c'est-à-dire qui se répètent selon un rythme régulier et qui donnent l'impression d'une durée.
Il n'y a pas besoin d'un synthétiseur pour ça, parce que si on joue le la du diapason, qu'on appelle le la 440, ce sont 440 oscillations en une seconde. Voilà, ça c'est en fait il faut partir de là. C'est que
du la.
Quand on parle du la, voilà. Quand on parle en synthétiseur, on parle pas forcément de notes, on parle en fréquences. Les fréquences, oui. C'est l'unité de c'est le hertz, c'est l'unité de mesure de des sons. Voilà. Alors par exemple, si on veut fabriquer un la 440, on peut fabriquer ça avec un piano, avec une clarinette, avec n'importe quel instrument et aussi avec un appareil qui produit électroniquement ce son, c'est dans ce cas-là un oscillateur, ouais. Qui produira 440 oscillations en une seconde. Ça peut aller ?
C'est bien, c'est très bien.
Les oscillateurs sont les organes producteurs de ouais. Son dans un synthé.
Et il faut les transformer.
Autres, les autres modules étant des organes qui vont transformer ces impulsions premières, ces matières premières du son, qui vont les transformer selon un certain nombre de processus divers.
Par exemple, en le filtrant, c'est-à-dire qu'on va filtrer toutes les fréquences aiguës pour garder que les fréquences graves ou le contraire, ou au contraire un spectre à un endroit, parce que bon, les sons qu'on entend, ce sont... Il y a toujours une note fondamentale. Quand on dit la, le la, jouer un la, si on le joue à la clarinette ou au piano, c'est toujours un la. Simplement, ce qui fait qu'on reconnaît que c'est un piano ou une clarinette, c'est des tas de petites notes qui sont au-dessus, qu'on appelle les harmoniques, et qui fabriquent
qui sont superposées, qui sont superposées à la note fondamentale.
Voilà, c'est ça.
Et qui changent un peu la couleur, quoi.
Oui, on peut entendre ça facilement avec un piano.
Qui compose,
qui compose la couleur.
Change. Parce qu'il n'y a pas de couleur. Justement, il compose la couleur.
Il y a le son.
Il y a les
le plus primaire,
pures,
c'est une sinusoïde. En fait, c'est une sinusoïde. C'est le son le plus simple. C'est un son sans harmonique.
C'est l'équivalent d'un parasite de radio, quoi.
Mais est-ce qu'avec un synthétiseur, on peut imiter les instruments de l'orchestre
Oui, c'est ce qu'on disait.
C'est
on
un
peut...
peu comme l'orgue.
On a parlé de ça tout à l'heure. En fait,
non,
on peut
c'est pas exactement.
En fait, on peut, bien sûr, on peut imiter les instruments de l'orchestre à condition de les imiter note par note, parce que quand un instrumentiste joue, en fait, chaque note est attaquée différemment. Par exemple, on peut toujours fabriquer un son de violon. Il y a une bonne petite saturation là. Et par exemple, ça c'est en plus de ma voix et pourtant c'est produit par ma voix. Alors, il y a des petites harmoniques en plus. C'est ce petit bzzz. Je ne sais pas si ça passe à l'antenne.
C'est un son plus complexe. Le son est rendu plus complexe par un phénomène de saturation.
Je reviens en arrière. Maintenant,
on aurait pu le faire exprès sur un synthétiseur. Voilà.
On peut imiter bien sûr un violon au synthétiseur. C'est un gros travail. Mais on n'imitera qu'une seule note, sans intérêt pour le musicien. En tout cas, c'est pas très marrant, parce que quand on a un violoniste à côté de soi, qu'est-ce que c'est facile de lui demander de prendre son violon et son archet. Quand on a un trompettiste à côté de soi, c'est plus facile de lui demander de... que de reproduire ce son synthétiseur, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
Mais théoriquement, c'est possible.
Théoriquement, c'est possible, mais encore une fois, chaque note qui vient d'être jouée était attaquée d'une manière différente. Ça demande à programmer le synthétiseur chaque fois différemment. C'est le travail, le premier disque qu'on a entendu en Europe de synthétiseur, qui était le Bach joué sur des gros synthétiseurs. Ah. Bon, bah, c'était en définitive fait note par note.
Ah oui, justement, je voulais demander si on pouvait jouer aussi de la musique classique, pré-classique, du Bach, tout ça.
Oui, pour nous, ça n'a pas beaucoup d'intérêt.
C'est
Non, mais pourquoi pas. Mais c'est possible. Parce qu'en fait, ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a asservi le synthétiseur à un clavier, souvent. C'est un peu abusif. En définitive, le synthétiseur, c'est pas un instrument à clavier, ça n'a aucun rapport avec l'orgue. Simplement, pour plus de commodité, si vous voulez, le clavier du synthétiseur, c'est un peu un potentiomètre étalonné. C'est-à-dire, ça permet de par exemple, de monter, de se servir du clavier pour monter ou pour filtrer de plus en plus. Mais simplement, si on utilise un clavier tempéré, ben on va avoir des écarts qui seront très facilement contrôlables, alors qu'avec un potentiomètre qui souvent a une course de, je sais pas, qui peut aller jusqu'à 10 cm, ben 10 cm, ça couvre tout le spectre sonore audible, et même les infrasons et les ultrasons. Mais l'oreille humaine entend en général entre 20 et 20 000 Hz.
Parce qu'en fonction des individus,
en fonction de l'âge des sujets, ça change complètement. Avec l'âge, on n'entend pas du tout les
aigus. On entend de moins en moins les aigus.
Dites-vous.
Ah oui.
Mais pour répondre à votre question sur imiter les instruments, en fait, je voulais quand même dire qu'on peut pas imiter les instruments avec un synthétiseur.
Non, c'est différent.
En fait, rien ne s'y oppose, mais il faut lui adjoindre un ordinateur, parce qu'un son acoustique naturel est une chose extraordinairement complexe, et qui n'est pas seulement complexe dans sa trame, mais aussi qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que quand on attaque un son, ça s'appelle les transitoires, quand on attaque un son, il se produit tout un ensemble de perturbations, ensuite le son se stabilise, et puis quand le son s'arrête, il ne s'arrête jamais d'une façon abrupte. C'est-à-dire que cet arrêt, même si l'instrumentiste veut le terminer d'une façon abrupte et soudaine, de toute façon le son va mourir d'une certaine façon. Et cette façon-là va être également très complexe. Or, ces choses-là, ces caractères-là, sont ce qui permet de reconnaître un instrument. C'est-à-dire que tel instrument, qui a un timbre particulier, reconnaissable, a ce timbre reconnaissable du fait surtout de ces fameuses transitoires.
On dirait un accordéon, là.
C'est pas loin, c'est un mélodica, c'est un instrument à hanche métallique.
Hanche battante,
on appelle, comme l'accordéon, mais c'est beaucoup plus petit.
C'est un instrument qu'on achète souvent aux
enfants. C'est comme une espèce de gros harmonica dans lequel on souffle par un bout.
Bon, mais là, comment vous faites actuellement, là?
Pour l'instant, on est autour d'une table, on a posé les instruments sur la table, on a des micros chacun devant soi, et on joue un petit peu de musique de temps en temps pour faire exemple.
Vous avez joué ce soir, vous avez joué en direct, parce que j'ai pas tout entendu.
Pas tout, non, on a passé des bandes qui font partie d'un disque qu'on a fait.
Il va sortir au mois de novembre.
Oui, disons-le. Et on a aussi joué de temps en temps un petit peu d'instruments, mais généralement c'était au cours de la conversation. Si c'est ça que vous avez entendu.
Mais, moi, je me pose quand même une question. Est-ce que cette musique, je trouve pas mes mots, mais est-ce que c'est une musique, humaine? Moi, je trouve que jouer uniquement du synthétiseur, il me semble que c'est un petit peu, je sais pas, irréel. C'est pas évidemment, lorsque c'est...
C'est pourtant bien réel.
Mais non, oui.
Disons que ça prend du temps à retrouver, en effet.
Mais c'est un peu trop scientifique, non?
Au départ, en tout cas, comme tous les instruments, vous savez, quand on commence à jouer du violon, c'est terrible, parce qu'on met plusieurs années avant d'avoir un son de violon.
Oui, non, mais ça, oui.
C'est un peu la même chose avec le synthétiseur. C'est vrai que souvent, le synthétiseur est utilisé d'une manière très froide, peut-être à cause plus de l'utilisation sur bande magnétique, le découpage qui est fait d'une certaine manière, que le synthétiseur lui-même. Avec quelques années de pratique, le synthétiseur devient aussi vivant. On a un rapport moins physique et en effet plus intellectuel qu'avec d'autres instruments. Mais vous savez, quand un compositeur travaille, c'est souvent très intellectuel et pas très physique.
Oui, d'ailleurs, on peut dire que le synthétiseur, ça correspond peut-être plus à la pratique de la composition musicale. en particulier que celui de l'interprétation musicale. Parce qu'en effet, quand Jean-Jacques joue, évidemment, il peut jouer sur le clavier, mais comme il le dit lui-même, c'est pas ça le synthétiseur, c'est pas ce qui est intéressant dans le synthétiseur. Ce qui l'intéresse, c'est de préparer son travail, de composer la musique en mettant des mâles dans des femelles, hein, etc.
C'est très humain.
Ça me paraît justement très humain. Oui. Et puis, quand il a fini son travail, il fait partir le truc et c'est sa composition qu'on entend. Nancy, ça a au contraire un côté tout à fait même émouvant, je dois dire.
Mais c'est aussi un gros joujou, le synthétiseur. J'ai vu Jean-Jacques, par exemple, faire des gouttes d'eau, des bruits de gouttes d'eau avec, ou du vent, un peu à volonté. On peut faire un peu ce qu'on veut avec ça.
Des illustrations avec ça, bien sûr.
Oui, c'est-à-dire que moi, souvent, il m'arrive souvent de faire de la musique de film, mais en effet, je m'occupe aussi bien de la musique que du bruitage, oui. Pour essayer de fondre tout ça en un tout, qu'on a tendance à appeler partition sonore, pour simplifier un peu. Mais en effet, ça permet d'égaliser que la musique soit plus simplement de la musique un peu passe-partout, qui sert à, par exemple, combler un trou au niveau sonore dans un film. Alors on passe deux minutes de film de musique d'amour ou une minute de musique bagarre. C'est ce qui se passe souvent pour les films, ce qu'on appelle la musique de film. Il y a d'autres manières de travailler et on peut imaginer que la musique, les paroles, les bruits s'intègrent dans un tout. Le synthétiseur en effet permet ça. Et puis en plus ça permet peut-être aussi une distanciation par rapport au son réel. C'est-à-dire qu'une goutte d'eau faite au synthétiseur ne ressemble pas vraiment à une goutte d'eau. Ça crée quelque chose d'irréel. Si on a besoin d'une goutte d'eau qui paraisse réelle, il faut mieux mettre un seau sous un robinet que de le faire avec un synthétiseur, parce que ça, le micro le prendra très bien. Par contre, si on veut créer une ambiance un peu angoissante ou au contraire gaie avec cette goutte d'eau, plutôt que d'essayer de faire ça avec le robinet, je vous assure, je suis pas un expert du robinet, avec le synthétiseur ça m'est beaucoup plus facile parce que je peux exactement avoir la goutte d'eau que je veux.
Oui, et puis on peut par exemple monter une gamme avec une goutte d'eau, on peut pas le faire
ou alors ça
prend un robinet, ou alors on est vraiment un virtuose du robinet.
Ah ouais, j'ai déjà fait ça.
Ah bravo.
C'était plutôt le robinet.
Mais est-ce que le synthétiseur rentre dans la composition de l'orchestre, certainement,
Je n'ai pas compris la question.
Est-ce que ça peut rentrer dans un orchestre, un synthétiseur, faire partie d'une orchestration?
Bien entendu. Oui. Si vous avez entendu les enregistrements tout à l'heure...
Oui, il n'y a pas très longtemps que je suis rentré. D'accord.
Oui, bien sûr, c'est un instrument, c'est un instrument de musique, quoi. Oui, c'est même un super instrument de musique. On peut dire, quand on considère les possibilités, simplement du point de vue de la variété des sons, des hauteurs, de l'écriture, je veux dire, dans le temps, etc. C'est un instrument de musique qui est probablement appelé à devenir dominant.
Je dis ça, est-ce qu'il y a des grands compositeurs qui ont écrit des grands compositeurs qui ont écrit pour le synthétiseur, ça existe des concertos, pas des concertis pour synthétiseur et orchestre.
C'est-à-dire la forme de concerto est devenue très rare à notre époque. Et je connais pas moi de concerto de synthétiseur, mais Jean-Jacques est revenu à table et il va pouvoir peut-être le dire, lui qui est un peu spécialisé. Est-ce qu'il existe des concertos de synthétiseurs?
Je ne sais pas s'il existe des concertos, mais il existe des tas d'œuvres écrites pour synthétiseurs, dont des tas, j'exagère un peu, parce que c'est relativement récent, parce que les compositeurs... il y a un problème, c'est qu'il faut pour un interprète, et il faut déjà qu'il apprenne à se servir du synthétiseur. Le problème, c'est que dans les conservatoires, c'est une chose qui est relativement récente. Ça ne s'enseigne pas.
Alors, Philippe, lui, est professeur de musique au conservatoire, il peut en causer.
Au conservatoire de Montreuil, justement, il y a un problème, c'est que j'enseigne l'harmonie, la composition, etc. Tout ce qui touche à l'écriture musicale, et je voudrais depuis plusieurs années monter un studio de musique électroacoustique à Montreuil et enseigner synthétiseur, et c'est un blocage.
Mais c'est dire que ça s'enseigne pas.
Je
me souviens quand j'étais jeune, il y a eu les mêmes problèmes avec la batterie au conservatoire.
Passeron
était le premier à avoir osé faire une classe de batterie, parce qu'autrefois, quand il fallait jouer d'un instrument de percussion quelconque dans un orchestre symphonique, on demandait demandais en fait un peu au concierge de service de monde qui savait lire
une partition
de taper sur la grosse caisse. Ça n'avait pas beaucoup plus long que ça.
Il faisait signe pour moi.
Peut-être c'est le même genre de phénomène qui se passe avec le synthétiseur. Mais ceci étant, vous entendez certainement en tant qu'auditeur de radio du synthétiseur à longueur de journée, oui, sans le reconnaître.
Ah, il y en a de plus en plus, en tout cas dans la variété, c'est fou.
Dans la variété, le synthétiseur, c'est l'instrument, c'est le violon de notre époque.
Par exemple, dans la variété, toutes les cordes, maintenant, on a trouvé le truc, c'est-à-dire que la plupart des disques de variété sont faits avec un violoniste et un synthétiseur qui imite les cordes. Alors comme ça, il y a une présence quand même humaine dedans. Et ça permet de faire des économies de 40 violonistes.
On met des musiciens au chômage, quoi.
Ça a été un drame pour les gens de ma génération, justement. Ouais.
On assiste à l'industrialisation de la musique, il faut
c'est-à-dire que
en même temps,
on allait faire des séances d'enregistrement avec 50 musiciens dans un studio. Généralement, maintenant, c'est des petits studios où il y a juste un mec qui est là devant justement un synthé et puis qui remplace tout l'orchestre. Et
maintenant, ça donne pas non plus de résultat.
L'utilisation du multipiste, par ailleurs, fait qu'on peut faire la musique, on peut faire un grand orchestre en soi tout seul. Mais...
Je crois qu'il a un peu raison, monsieur l'auditeur, quand il dit que c'est un peu inhumain, non ? Parce que la musique, c'est l'oreille, c'est vrai, c'est de la physique, mais c'est aussi des sentiments. Non ?
Mais je vois pas ce que le synthétiseur a contre ça.
Non, mais s'il y a 40 musiciens et puis s'il n'y a plus un violon et un synthétiseur.
Mais vous savez, vous croyez vraiment que vous avez déjà regardé un peu les musiciens dans la fosse d'orchestre ?
D'accord. Ok.
Il est dit.
D'accord. Ok.
On vous a tout dit sur le synthétiseur ?
Ben oui, enfin pour l'instant, je n'ai pas d'autres questions. Enfin.
Vous continuez à écouter, puis si vous en avez d'autres, vous rappelez ?
Oui, je vais continuer à vous écouter et laisser la ligne, parce que si quelqu'un d'autre veut appeler.
Ben c'est gentil. Hein ? Merci d'avoir appelé en tout cas.
Bonsoir.
Au revoir.
Au revoir. Oui, tu disais une chose, là, j'aimerais que tu expliques. Tout à l'heure, tu disais, si on joue un la à la trompette ou à la flûte ou au piano, c'est la même chose sur le fond, mais il y a des choses en plus qui se superposent et qui donnent une couleur différente. Bon, qui créent une couleur différente. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a en même temps d'autres notes qui se superposent au la ?
C'est pas des notes. D'abord, un son n'est pas une note et vice-versa. La note n'étant que la codification de tel son. Mais un son, quel qu'il soit, est toujours. C'est comme la théorie atomique. Je veux dire. Un son, il a toujours la même structure. Cette structure, c'est celle des harmoniques naturelles. C'est-à-dire que dans la nature, on n'entend jamais, et de toute façon, on n'entend jamais un son simple. Parce que même quand un son simple est émis est engendré par un générateur électronique qui diffuse, lui, ce qu'on appelle une sinusoïde, c'est-à-dire un son tout seul, quoi, un battement. Mm-hmm. Un battement dont la fréquence donne l'impression d'un son. Même quand on entend ça, l'oreille elle-même, qui est un instrument musique, en transformant ce son, se conduit en appareil acoustique et produit lui-même une diversité de sons. C'est-à-dire qu'en fait, un son n'est jamais ce qu'on croit, c'est-à-dire une note, c'est-à-dire une impression, c'est toujours un ensemble d'impressions.
Alors qu'est-ce qui fait qu'un la, quand on entend un la, on sait tout de suite que c'est un la au piano ou à la trompette ?
Et bien parce que quand on entend un son, c'est un ensemble complexe.
Il y a une fondamentale.
Mais il y a toujours une dominante. Dominante, c'est un mot ambigu d'ailleurs, enfin, une fondamentale plutôt qu'une dominante. Mais enfin, cette fondamentale étant dominante du fait qu'on reconnaît le son. En fait, l'oreille reconnaît cette rapidité particulière. En entendant un ensemble complexe d'événements acoustiques, la signale la reconnaît comme étant tel son. Voilà. On entend. Ah non, enfin, là c'est trop complexe. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est un la, justement. C'est un la. Voilà, alors c'est le premier c'était un mélodica, l'autre c'était de la flûte. Ces deux là sont le même là. C'est-à-dire que sur la portée, on les écrit au même endroit, sur la même ligne. Pourtant, le son n'est pas du tout le même. Le son n'est pas du tout le même parce que la hiérarchie de ces partiels, ces harmoniques qui composent ce son, dont la complexité crée une impression d'unité, ces partiels ne sont pas répartis tout à fait de la même façon. Il y en a qui dominent dans l'un et qui ne dominent pas dans l'autre, et inversement, ce qui fait que le son n'a pas la même, le son n'est pas le même dans les deux cas, et qu'on peut les différencier. Pourtant, l'impression générale, l'impression globale peut être amenée à tel là qui fait, qui comporte 840, 880, ou je ne sais pas, mais enfin, qui comporte un certain nombre de battements à la seconde. Alors, ça, c'est encore pire. On avance dans l'horreur. On a deux sources. C'est deux sources interférentielles, c'est-à-dire que un ensemble de vibrations qui rencontre un autre ensemble de vibrations crée une troisième génération de vibrations. Et c'est pour ça qu'on entend tout d'un coup des choses qui ne sont ni l'addition simple, pure et simple de sons, mais l'addition pure et simple de sons multiples qui eux-mêmes produisent une autre génération, une autre catégorie de sons encore différentes.
Des collisions. Quoi.
D'ailleurs, on peut vous faire ça, peut-être si vous vous énerviez moins. On pourrait faire.
C'est, ils se montent les bourrichons.
Rappel à l'ordre.
Pour changer, on pourrait faire par exemple un si bémol pour l'oreille. Alors moi je vais faire un si bémol, toi tu vas faire un petit peu au-dessus, c'est-à-dire un si.
Bêtement.
Un si.
Et un si dièse.
Et toi tu vas faire un si dièse, c'est-à-dire un do.
Voyons simple.
Et vous allez, je suppose peut-être que la qualité de la réception va vous permettre de constater qu'on entend non pas trois sons, mais une grande quantité de sons qui sont des résultats des combinaisons de ces sons entre eux. Est-ce que c'était...
Mais si on n'avait pas su... Si quelqu'un qui écoute ça et qui ne sait pas qu'il y a trois notes différentes, ne peut pas le deviner.
Il y a un plus grand nombre.
Oui. Oui.
Ben on reconnaît quand même, là, les instruments sont tellement différents, on entend très bien la trompette par exemple qui ressort.
Oui, mais
oui, au bout d'un moment.
Ça serait plus probant avec trois instruments identiques, ta démonstration.
Avec trois flûtes par exemple.
Ça serait plus et ça serait moins, parce que ça serait moins divers.
Oui, mais enfin, là on pourrait absolument pas savoir qui joue quoi.
On peut essayer trois flûtes alors. Oui.
Alors il a une flûte qui est assez marrante.
Oui, c'est plus différente, mais quand même.
Il a une flûte qui vaut le coup d'œil là, franchement.
Ah oui, mais alors là.
Maison, la flûte, là.
Le même genre de... Souvent, quand on se met à un son comme ça, c'est-à-dire sans se prévenir, ça fait un accord septième de dominante.
Ouais. C'est-à-dire la résonance naturelle.
Alors expliquez ça, les enfants, parce que, a priori.
Je ne sais pas si ça s'explique vraiment. On peut dire ce que c'est qu'un accord de septième.
Vous donnez une petite idée, quand même.
Oui.
Oui, non, c'est ça que je veux dire.
Moi, je veux bien. Je peux, mais je pense
Philippe,
que.
Philippe, tu te sens expliquer
Philippe,
ça.
Philippe, ça serait plus sa spécialité.
Bah, oui, c'est ma spécialité, mais justement, c'est un truc de spécialiste. Ça ressemble à... Non, mais. Non. Plus simplement, quand on a parlé tout à l'heure d'un son fondamental et puis d'harmonie qui se rajoute, alors dans la plupart des instruments, dans le piano, une corde vibrante par exemple, la structure de ces harmoniques, ça donne une certaine disposition de son, ça met un accord qui en gros, enfin pour simplifier énormément, s'apparente à ce qu'on appelle septième de dominante. C'est un accord l'accord qui se rapproche le plus de la résonance naturelle d'une corde sonore ou d'un... La tuyau sonore.
Oui, pardon.
Je disais, j'ai essayé de faire un double son, j'ai pas réussi.
Parce que les harmoniques sont toutes présentes.
Parce que comme il y a des harmoniques, c'est-à-dire des espèces d'étages, comme ça, quand on tape entre deux étages, si on a de la chance ou si on travaille bien chez soi son instrument, on arrive à faire sortir non pas rien entre les deux, mais les deux sons
en même temps.
J'essaie de le faire et je suis navré.
Si on faisait un petit jeu là.
Bah, il faudrait peut-être revenir en arrière alors à la pièce précédente.
Oui.
À ces crimes parfaits.
Tu es loin du micro aujourd'hui.
Oui, je disais, il faut peut-être revenir à la pièce précédente avant le coup de téléphone, c'est-à-dire à ces crimes parfaits qu'on a écrit au début de l'année. Et où on a utilisé plusieurs méthodes. Et il y en a une en particulier. Il y a une des méthodes sur la voix. Il y a une méthode d'abord sur la voix, sur le travail radiophonique, sur le montage, qui sont des choses qui sont relativement simples et qui sont assez faciles à faire chez soi. Sur la voix, c'est-à-dire c'est la première partie de la pièce qu'on a entendue. Il faut chanter le texte à l'envers, rêvant la Euxete l'étanche, puis le diffuser en retournant la bande. Il retrouve son sens, se rêve ainsi dans les mâles, la mélodie s'inverse.
Oui. Alors on a fait une petite expérience, là on a choisi une phrase d'un grand auteur.
Oui, c'est un grand auteur.
Très connu, on ne va pas dire son nom tout de suite.
Mais comme je ne suis pas cultivé...
Tu ne le connaissais pas, en fait tu te cultives ce soir.
Oui, oui. D'ailleurs il se reconnaîtra, ça ne sera peut-être pas nécessaire.
Il se reconnaîtra en tout cas, lui, mais il y en a d'autres qui le reconnaîtront parce que c'est une phrase qu'on a souvent citée ici.
Elle est bonne, hein ?
Elle est bonne.
Elle est assez bonne, je vais vous la dire.
Alors tu nous l'as dit
à l'endroit.
Comment on me l'a communiqué ?
Non, tu ne l'as dit pas à l'endroit, surtout tu l'as dit à l'envers. Tu l'as dit à l'envers, ça, et ensuite on la retourne. C'est ça, on l'enregistre à l'envers, et ensuite on passe cette bande elle-même à l'envers, et on va retrouver la phrase du célèbre auteur. Écoutez, alors attends, on est prêt à enregistrer là ? Alors c'est l'autre micro. C'est l'autre micro.
Réclamer un peu d'indulgence. Je crois que c'est les deux micros qu'il faut.
Il faut les deux micros, voilà, c'est ça. On est prêt à enregistrer, Dany ? Allez, tu peux y aller.
Et Joïdara, étivin les rudons. L'Badimrof mime un Enoch Euge.
Tu pourrais peut-être la reprendre.
Je pourrais peut-être, ouais, ça sera mauvais parce que ça risque d'être un peu mauvais. Ejoïdara etival erude. Non, c'est très difficile.
Surtout que là, on va entendre toutes nos voix à l'envers après.
Ça
mais
vous plaît ?
Articule bien.
Bon, j'essaye d'articuler mieux. Ejoïdara etival erudon. L'Badimrof mime un Enoch Euge.
Je vais essayer.
Voilà, pendant ce temps-là,
je vais essayer de. Attends, avant de la retourner, je vais essayer de dire le nom de l'auteur à l'envers aussi. Hein.
Pardon.
Okouflesram. Je sais pas si je l'ai dit.
Je peux essayer peut-être.
Essaye.
De toute façon, tout ça sera intéressant. Hein. Je vais essayer, hein, mais c'est pas sûr. Hein. Mais c'est peut-être bien en fait.
Et l'autre micro.
D'autres micros.
Non, ils sont en train de retourner la bande déjà.
Tu vas pas retourner la bande encore, hein, Dany. Tu enregistres toujours.
Allons-y. Alors, Okouflair. Très difficile.
Si on s'y retrouve là-dedans.
L'Ersam.
L'Ersram. L'Ersram.
Ah oui.
Okouflesram.
Okouflesram. On peut retourner la bande.
Et on retourne. Alors, c'est-à-dire qu'on
c'était
retourne.
Le cours accéléré de Verlan.
On retourne rapidement.
Pendant ce temps-là, pendant qu'on retourne la bande, on peut peut-être expliquer le principe de la radiophonie.
Pour la rediffusion.
Pendant ce temps-là.
Ce qui serait bien, ça serait de la rediffuser. Quand vous la rediffuserez tout à l'heure, de mettre, si vous avez une réverbération, d'en mettre un peu.
On n'a pas.
Alors.
Bon. Oui, sinon, l'autre chose que vous avez entendue, qui sont faites d'éléments radiophoniques, c'est fait avec un radiocassette. Ça consiste à surprendre l'émission en direct en servant uniquement du bouton de pause. Et il faut des bons réflexes. Ça ressemble un peu à un montage à la caméra pour le cinéma. Pour effacer, il suffit de revenir en arrière et on recommence. Il faut de la patience. Et on peut retrouver ainsi chez soi l'émotion d'une composition instantanée, l'émotion d'un concert.
Oui, ce qui n'est pas la même que l'émotion.
Une fébrilité.
L'émotion d'un texte qu'on lit.
Le choc mécanique de la pause provoque de très confondu. Court silence. Cut.
On est prêt, Dany ?
Alors, vas-y.
Ah, je dois préciser quand même que ça c'est pas possible à faire avec un magnéto à cassette parce que c'est bien un magnéto qui lit dans les deux sens, ni avec un magnétophone pleine piste ou deux pistes. Bon, je précise ça pour qu'il y en a qui lit. Avec un magnéto à cassette. Et... Les gens qui ont ces magnétophones-là ont aussi des magnétophones à bande.
Oui, c'est vrai. Voilà, on essaye de retrouver l'endroit.
On n'a qu'à tout mettre.
Oui, non, il n'a qu'à tout mettre.
Ou l'envers,
ça va faire une petite variété. De...
C'est à l'envers de l'endroit. C'était la fin, ça, Dany.
Marcel. Marcel Foucault. Je connais un mime formidable, de Uriel invité à Radio G. Je connais un mime formidable du réel invité à Radio G.
Voilà.
Phrase célèbre prononcée il y a un an environ.
C'est fortune. C'est intéressant parce que on remarque qu'en fait il n'y a pas que la phonétique qui est inversée, il y a aussi la mélodie.
Et puis il y a aussi l'ordre du texte puisque la signature est arrivée avant.
Par cette expérience, on se rend compte en écoutant ce résultat étrange, on se rend compte que quand on parle, on chante.
On chante, mais oui, c'est ça.
Et on chante, mais on est tellement habitué à une certaine chanson, un certain rythme, une certaine chanson, hein, qu'on ne remarque pas l'air. Mais quand il est mis à l'envers, on remarque que
Radio G,
c'est vraiment c'est une chanson, quoi. On chante vraiment quand on parle.
On pourrait peut-être écouter maintenant une bande où justement on a utilisé un synthétiseur, des bandes magnétiques, mais qui est une bande qui a été faite suivant les méthodes de la composition instantanée, qui est un duo entre Hélène Sage et moi-même. Ça n'a pas de titre.
Thank you.
Marcel, s'il te plaît.
Vous avez mis à contribution toute une basse-cour là, pour ce concerto.
C'était des bandes magnétiques. Ouais. Hein.
Vous avez tué combien de chats là?
Non, mais
est-ce que les chats font partie d'une basse-cour?
Ils sont là.
Ah bon?
Les chats qui meurent le font aussi.
D'ailleurs, mais je sais le son que fait un chat qui meurt. Je ne voudrais pas attrister l'auditoire, mais je sais. Il y a un chat qui meurt ronronne.
Tiens.
Ouais.
Voilà, nous voilà disculpés.
Ouais, on peut parler d'autre chose.
Bah, oui, peut-être de la manière dont vous travaillez, parce qu'on a dans l'idée qu'un compositeur, c'est quelqu'un qui travaille dans son coin tout seul, qui gratte du papier, qui, je sais pas, peut-être qui s'excède avec un instrument, un piano souvent, etc. Et vous travaillez plutôt comme des joueurs de jazz qui improvisent ensemble, quoi. Enfin, ça donne un peu cette impression-là.
En fait, on travaille exactement comme tous les compositeurs, simplement on travaille à plusieurs. C'est ça qui est le plus important, c'est qu'on travaille en collectif. Là, on vient d'entendre une bande qui a été faite à deux, qui est signée par deux personnes, et ça, j'ai moi-même. Et sinon, toutes les bandes qu'on a entendues jusqu'ici, qui étaient d'un drame musical instantané, étaient des bandes qui ont été signées à trois, avec Bernard Vitet, Francis Gorgé et moi.